Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 292e épisode de notre podcast. Un épisode 292 qui arrive avant le 291, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dans ce numéro, nous allons vous parler financement participatif et plus précisément de The Last Shinobi, un comics indé français en cours de financement. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 292e épisode de Comic Stories. Pour ce 292e épisode, je suis avec quelqu'un que vous n'avez jamais entendu chez nous. Je n'ai personne de l'équipe avec moi, puisqu'il va s'agir aujourd'hui d'une interview de Richard Mondragon, le créateur d'un comics indépendant français intitulé The Last Shinobi. Bonjour Richard.
Bonjour.
Alors, le comics que tu as créé, l'univers que tu as créé, a pu être découvert déjà par les lecteurs cet été autour d'un projet sur Ulule qui a été financé avec succès. Et là, tu remets le couvert avec un numéro 2.
Oui, tout à fait. On est parti sur une mini-série, donc 6 numéros sur un format à l'américaine. Donc, c'est-à-dire 20 pages, couverture souple, comme le single américain. Et donc voilà, on fera une campagne de financement pour chaque numéro. Donc là, on en est au deuxième.
Donc là, on est au deuxième numéro. On enregistre cette émission le 10 décembre. Elle devrait être diffusée soit ce soir, soit demain. Donc il reste 19 ou 18 jours selon la date de diffusion pour pouvoir aller découvrir tout ça. Ça se passe sur Ulule. Mais avant de parler de ce numéro 2 du projet en cours, on va revenir un peu en arrière. Et je vais te poser une question rituelle quand on reçoit quelqu'un ici. Est-ce que tu peux nous raconter tes origines secrètes?
Non, ben du coup, bon, moi je suis breton et je vis maintenant dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Voilà, Richard Mondragon, hein, c'est un nom de plume, hein, mais mon prénom est vraiment Richard. Et voilà, alors l'origine de ce projet-là, en fait, moi j'ai toujours bercé dans les univers de fantasy, j'ai joué beaucoup aux jeux de rôle également plus jeune, alors maintenant j'ai un peu moins le temps avec le boulot, les enfants, tout ça, mais j'avais toujours eu l'envie d'écrire, et là j'ai pu me lancer un peu avec le peu d'argent que j'avais à disposition. Je me suis dit, allez, c'est parti, j'investis, j'essaie de me lancer dans ce projet-là qui me tient à cœur. Et voilà. Donc, c'est pour ça que l'univers, d'ailleurs, ressemble un peu, on retrouve beaucoup de références à des univers de fantasy bien connus.
Alors, c'est quoi tes références? Dans quoi tu as baigné par rapport à tout ce qui est pop culture, comics notamment, mais aussi pas mal de jeux de rôle, tu le disais, mais voilà, dans quoi tu as baigné un petit peu de par ton expérience en tant que lecteur ou spectateur?
Alors, moi, au niveau de la fantasy, donc du coup, ça a commencé avec le jeu de rôle, les cartes Magic, voilà, quand j'étais au collège. Après, voilà, ça a continué pendant de nombreuses années. Et après, alors les comics, ça c'est plus. Alors après, bon, bien sûr, il y a eu pour la fantasy, je parle. Il y a eu aussi des films hein, comme Le Seigneur des Anneaux, etc. Là, et au niveau des comics, il y a eu Conan, le barbare. Les comics, c'est quand même arrivé plus tard. Hein. Quand j'étais jeune, mes parents m'avaient offert en presse des X-Men, des choses comme ça. Mais j'avais pas encore suffisamment accroché. C'est que finalement, il y a une dizaine d'années. Que j'ai commencé avec le jeu Batman Arkham à voir tous les bonus, toute la pléiade de méchants qu'il y avait, et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et du coup, j'ai commencé à lire en VO, donc c'était juste avant les New 52, et oui, c'était ça, quelques 6 mois peut-être avant les New 52, quelque chose comme ça. Et voilà. Et depuis, je lis en VO depuis ce temps.
Ok, donc
Donc.
Batman, j'imagine, toujours?
Oui, tout à fait. Batman, Swamp Thing, J'aime beaucoup tout ce qui est un peu Justice League Dark, tous les personnages un peu obscurs de l'univers DC. Je lis pas de Marvel, tout simplement parce qu'on peut pas tout lire, le budget est pas extensible, donc voilà, j'ai toujours plus accroché à l'univers DC de manière générale.
Ok. Donc le jeu de rôle aussi, le cinéma tu en as parlé, un petit peu de séries télé, de choses comme ça.
Ah oui, alors il y a plein de choses. Je suis un grand spectateur, hein, donc là, par exemple, les dernières choses que j'ai regardées là, c'est la série C là de
Ouais.
Apple avec Jason Momoa là, un peu post-apocalyptique. Mais sinon, j'adore Game of Thrones. Dans les toutes premières séries qui m'ont marqué, il y a eu Lost. Mais voilà, non, j'en mate énormément, hein, donc voilà. Je pense qu'il y a plein de séries qu'on peut avoir en commun.
Oui, il y en a
Voilà, une des
quelques-unes dans ce que
dernières.
tu as cité, ouais. The Last Shinobi, alors, du coup, comment un passionné de pop culture, de jeux de rôle, de cet univers, enfin de ces univers fantasy et tout, voilà, comment une idée comme celle-ci arrive dans la tête et comment elle devient un projet?
Alors en fait, pour vraiment remonter à la genèse, en fait, j'ai commencé à écrire sur Something. C'est un personnage, c'est un de mes personnages préférés. Et puis en rencontrant des artistes dans des conventions, etc., j'ai appris que en fait, c'était impossible d'envoyer un scénario sur un personnage existant, qu'il fallait forcément avoir déjà des références. Et sur des choses qui ne sont pas sous licence en fait. Et donc du coup je me suis dit ok, bon j'ai écrit quelques numéros de Something, mais il faudrait que du coup je me crée ma propre référence. Et donc bah j'ai fait un peu un brainstorming de tout ce que j'aime, donc la fantasy, l'univers asiatique. En fait moi j'ai fait des arts martiaux pendant de nombreuses années, et d'ailleurs je pratique le ninjutsu aussi, qui est donc l'art martial traditionnel des ninjas. Et donc voilà, donc en fait j'ai fait un mix un peu de tout ce que j'aime et j'ai essayé d'en former un projet viable.
D'accord, donc t'as pas eu forcément, je sais pas, par exemple le personnage qui est arrivé d'abord et puis derrière t'as construit quelque chose, t'as un peu brassé tout ce qui t'avait influencé et tout est venu un peu comme ça.
Voilà, tout à fait, ouais, c'est venu naturellement. Je me suis dit, ah, l'histoire d'un ninja, voilà, je pourrais insuffler tout ce que. Alors, le ninja, surtout, en fait, à la base, c'est que j'aime ce type de personnage-là, mais il est souvent, il est quasiment, c'est pas pour dire tout le temps, mal représenté dans la pop culture. On en fait soit un assassin sanguinaire, soit on leur donne des pouvoirs magiques ou des capacités non humaines. Et en fait, j'allais dire, mais on est loin du vrai ninja, en fait. Et moi, donc, voilà, je voulais revenir. Vraiment pour donner une vision plus cohérente. Alors on retrouve, alors beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais on retrouve des techniques martiales. Hein, il y a des positions, des postures qui sont vraiment celles du ninjutsu. Et puis après, voilà, je le représente comme une personne, je dirais normale, qui a des capacités. Alors là, on peut comparer un peu à Batman. C'est-à-dire que ça reste un humain qui a des capacités, certes.
Oui,
À la
elle
limite de ce qu'on peut faire, quoi, en termes d'intelligence, de capacité physique, hein, il est au top c'est le top de l'humain, mais ça reste un humain avec ses faiblesses, et voilà. Et puis au niveau de la représentation du ninja, c'était un peu hein, l'espion médiéval, hein, James Bond, etc. C'était exactement le même rôle en fait, hein, un rôle de renseignement. Il faisait partie de l'armée, sauf qu'il n'était pas soumis aux mêmes règles que les samouraïs, et donc il avait plus de liberté. Et il avait le permis de tuer comme James Bond, mais voilà. Donc je voulais un peu montrer ce qu'était réellement un ninja.
Ok. Et à quel moment, une fois cette idée et cet univers se mettant en place dans ta tête, à quel moment tu te dis, là, ça y est, je tiens quelque chose, je tiens un projet et ça va devenir cette mini-série en 6 épisodes ou peut-être même plus, je ne sais pas s'il y a d'autres ambitions derrière. À quel moment ça devient quelque chose de concret où tu te dis, là, ça y est, j'écris réellement un scénario, je me pose sur des formats 20 pages, etc. Comment tout ça s'enclenche?
Bah déjà, donc il avait trouvé ce dont on vient de discuter, hein, l'univers de base, le concept. Et après, j'ai commencé réellement à écrire le scénario. Donc là, au début, j'avais bouquiné un peu de la littérature pour voir la construction de scénario. Donc j'ai écrit le début, j'ai écrit la fin. Et puis après, j'ai essayé de combler, de trouver des étapes, etc. intermédiaires, des twists, hein, etc. Et j'ai réussi à segmenter mon histoire. Et puis après, c'est une question de satisfaction personnelle, en fait. Si à un moment donné, on est suffisamment content ou qu'on trouve que ce qu'on a écrit en vaut la peine, du coup, on passe à l'étape projet. Mais alors, ce qui est un peu difficile souvent, c'est qu'on est très critique envers son travail, donc il y a toujours à réécrire, à rechanger les dialogues, à rechanger les idées. À un moment donné, il faut réussir à se fixer, donc ça, c'est pas facile. Mais bon, à un moment donné, j'étais suffisamment content de ce que j'avais à proposer, donc j'ai dit, allez, go.
Et donc c'est là où on cherche un dessinateur, un artiste.
Oui, tout à fait,
Et
ouais.
comment est venue cette collaboration du coup avec Aquila, je ne sais pas comment il faut le prononcer.
Aquila, ouais.
Aquila.
Alors en fait, recherche sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé un groupe sur Facebook qui était scénariste cherche dessinateur et vice versa. Donc j'ai regardé un peu quel type d'annonce passait et du coup après j'ai posté la mienne en essayant de maximiser les chances de retenir l'attention de personnes. Et voilà, j'en ai eu plusieurs. Ça s'est pas révélé fructueux, les premières collaborations. On a fait des tests avec des personnes. Il y en a qui arrivaient pas à dessiner suffisamment rapidement. D'autres qui pouvaient pas s'engager. Bon. Et c'était, Akila, ça a été la troisième personne que j'ai contactée et où ça a matché finalement.
D'accord, donc géographiquement, pas du tout situé vers toi.
Et non, puisqu'elle est belge. Donc, c'est pas très loin. Hein. On arrive, Paris Comic Con, mais voilà, on se voit pas tous les 4 matins, mais c'est pas ma voisine.
Ouais, du coup, collaboration en numérique par mail.
Ouais, tout à fait, ouais. Mais ça marche très bien, on est tous les deux ouverts à la discussion, aux propositions, donc voilà, on se fait des échanges. C'est arrivé plusieurs fois qu'on se parle aussi directement en webcam, des fois quand il y avait des sujets un peu compliqués à l'écrit, mais voilà, donc ça se passe très bien à ce niveau-là, j'en suis très content parce que c'est pas du tout évident en fait.
Ouais, surtout sur un premier projet comme ça, où tu débarques avec une idée, tu cherches un peu un artiste. Oui, c'est trouver quelqu'un avec qui ça match et avec qui le projet peut se lancer, effectivement, ça va pas forcément être très simple. Et puis surtout qu'un troisième compère dans l'histoire, Elmer Santos, à la couleur, à la colorisation, qui a vraiment un impact. Enfin, pour avoir lu du coup le numéro 1 tout à l'heure, effectivement, sa couleur joue un vrai rôle dans votre projet, dans votre histoire à tous. Et lui, il a fallu le trouver aussi par internet.
Alors non, en fait là j'avais voilà, je baigne un peu dans l'univers des comics du coup depuis une dizaine d'années et j'ai rencontré pas mal d'artistes et du coup je connaissais des artistes philippins et un jour j'aurais demandé si ils avaient pas un collègue coloriste ou je sais plus, on en avait parlé déjà, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas j'avais ce contact-là et lui, je le connaissais pas personnellement, mais voilà, on m'en avait parlé, donc du coup je l'ai contacté et voilà, il était dispo et donc voilà. Alors il jongle sur différents projets, donc il a pas toujours le, voilà, il faut que je sois un peu patient des fois pour voir les pages arriver, mais voilà, ça marche et bon là du coup philippin, sûr que ça fait là ça fait international pour le coup. Et
Carrément.
puis bon, il apporte une vraie touche, comme tu l'as dit, hein, une touche professionnelle. Hein. Lui, il a déjà travaillé pour DC, pour Valiant. Donc voilà, ça apporte une vraie plus-value, au bouquin, quoi.
Ouais. Donc vous avez ensemble tous les trois fait vos premiers numéros, vos premières planches. J'ai cru voir en farfouillant dans les internets qu'avant Ulule, il y a eu une autre mode de diffusion de The Last Shinobi, c'était sur Patreon.
Alors oui, Patreon, c'était un essai infructueux. Donc le financement, le concept était sympa, je trouvais, mais le problème, c'était que c'est un site qui est en anglais, donc tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais, il fallait payer en dollars, donc ça a engendré des frais bancaires, selon les personnes. Donc voilà, c'était pas adapté. Et puis le système de diffusion de pages aussi. Toutes les semaines, une page, etc. C'était un peu compliqué par rapport aux gens qui étaient là depuis le début ou les gens qui arrivaient en cours de route. Moi, bon, donc, c'était pas suffisamment pertinent.
Ok, donc recherche d'un autre mode de diffusion, de publication. La question Ulule est arrivée. Est-ce qu'avant, il y avait d'autres tentatives par des éditeurs peut-être plus classiques, par des éditeurs qui sont, je pense par exemple à des gens comme chez Comics Initiative qui sont coutumiers des projets de financement participatif avec des artistes français, etc. Ou c'était direct Ulule?
Oui, non, j'ai eu une réflexion au début, justement, pour savoir quel moyen j'allais faire pour éditer The Last Shinobi. Et non, je suis assez indépendant, moi. Je voulais pas rentrer dans le système de l'édition avec des vrais éditeurs, parce que je trouve que le mode de rémunération des créateurs n'est pas du tout adapté, réglo. Que voilà, je voulais pas faire ça. Et Comics Initiative, oui, qui est effectivement, lui, à mi-chemin entre l'édition, le financement participatif, etc. Non, ça m'est pas venu à l'esprit. Voilà. Moi, je
Ok.
suis suffisamment autonome et indépendant. Du coup, voilà, j'ai testé tout seul.
Ok. Donc, on a vu un petit peu l'origine, comment on est arrivé sur Ulule. Avant de parler de la campagne en cours, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport au projet The Last Shinobi. Du coup, est-ce que tu peux nous pitcher ça, raconter un petit peu aux auditeurs qui n'auraient pas connaissance du projet, de quoi il en retourne?
Ok, alors Kotaro, en fait, c'est le personnage principal, c'est le dernier shinobi du monde d'Orme. Donc, en fait, on apprend rapidement, dès les toutes premières pages du premier tome, qu'en fait, il y a deux factions importantes, les sorciers et les clans shinobi. Et tous les ninjas ont été exterminés par les sorciers à un moment donné de l'histoire de ce monde. Et donc, ne reste plus que Kotaro, qui doit un peu faire perdurer ces clans shinobi. Alors on ne sait pas trop comment, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais en tout cas il y a tout cet héritage qui est là sur les épaules et qui va essayer de faire perdurer dans l'univers. Le monde d'Orme, en fait, c'est un monde qui est recouvert d'une nature luxuriante, indomptée et inexplorée. Donc c'est un environnement qui est assez hostile et il y a des peuples donc qui ont réussi à dont les humains et on en découvrira plusieurs au fur et à mesure, qui ont réussi à survivre à ça, à ce cataclysme, et qui forment donc ce qu'on appelle les royaumes restaurés, donc des royaumes où plusieurs générations ont essayé de rebâtir. Et voilà. Et donc ça, c'est un peu le contexte du monde d'Orme. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu l'inverse de ce qui se passe sur la planète Terre. C'est-à-dire que nous, les humains, on a une emprise énorme sur la nature et on est en train de la détruire. Alors que dans le monde d'Orme, en fait, c'est la nature qui met la pression aux espèces, on va dire, intelligentes. Donc voilà, ça, c'est un peu un concept de base que j'aimais bien,
Ouais, c'est
que je
intéressant.
voulais mettre en avant.
Et donc, du coup, on découvre ton personnage principal, du coup, Kotaro, dans ce premier épisode, sans spoiler grand-chose, hein, parce que c'est dès les deux ou trois premières pages, il revient dans son village natal et c'est là que va être le point de départ un peu de sa quête.
Oui, tout à fait. Après des longues périodes d'errance, il retrouve une certaine motivation pour. Il s'est donné un objectif dans la vie qui est pas mal la vendetta. Et voilà, donc voilà, là, il va retourner dans l'enfance et ça va entraîner toute une série d'événements. Donc là, le premier tome, c'est vraiment. Il montre l'état d'esprit du personnage. Donc il affronte une manticore et on voit qu'il est déterminé, prêt à risquer sa vie. Et voilà, on voit un peu toutes ses valeurs et sa détermination. Et voilà, ça pose un peu le cadre pour la suite. Et après, dès le tome 2, on va développer davantage, aussi bien l'univers que ses relations avec l'extérieur, etc. Parce que c'est un personnage qui est solitaire, mais bon, il n'est pas non plus, coupé du monde. Donc, on va voir ça. Et il y a énormément, comme on peut le voir dans le tome 1, il y a des flashbacks qui sont récurrents. Et ça va continuer quasiment tous les numéros, hein, sur les 6 numéros, c'est prévu. Et on va aller explorer un peu son passé. Et du coup, on comprend mieux les enjeux et on comprend mieux ses motivations avec tous ces flashbacks.
Oui, on sent bien que le passé, de toute façon, a une grande importance dans ce numéro. Il y a pas mal de souvenirs qu'on sent assez importants qui arrivent, effectivement, et on voit bien les allers-retours. Et c'est là où je disais tout à l'heure que les couleurs jouent un grand rôle, parce que vraiment, ces souvenirs, il y a une. une petite touche particulière, une lumière différente dans les couleurs. J'ai trouvé ça vraiment chouette, ces passages-là dans le passé. Le premier numéro, j'en ferai une chronique, soit sur Instagram pour ceux qui me suivent, soit sur le site directement. Voilà, je vous dirai mon avis sans trop en dévoiler pour le moment. J'ai kiffé, y a pas de souci. Le petit cliffhanger de fin est assez efficace et c'était un peu ma peur. Les projets comics français, ou comics un peu très indépendants comme le tien, veulent se lancer sur des numéros, des mini-séries en épisodes de 20 pages, etc., comme la version US. Et il nous manque, bah, ce qui fait le sel vraiment de la version US, c'est le cliffhanger. Et là, si certains hésitent et avaient la même crainte que moi, eh ben on l'a. On a cette petite dernière page qui nous dit: ah ouais, ok, on veut voir un petit peu ce qui va se passer derrière. Et j'imagine que du coup, si tu l'as fait dans le numéro 1, c'était vraiment ton souci et tu vas le faire à chaque fois.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah voilà, quand je voulais moi copier le format à l'américaine, hein, t'as le format du bouquin en lui-même, mais il y a aussi la façon de narrer des histoires, effectivement. Hein, et ces twists de fin de numéro, effectivement, il y en aura à chaque fois. Et voilà, c'est pour donner envie de lire la suite. Et puis ça rythme vraiment l'histoire. Hein. On sait que toutes les 20 pages, au moins, parce que bon, il peut y en avoir davantage encore, hein, des twists, mais au moins toutes les 20 pages, il y a un retournement de situation ou quelque chose vraiment d'essentiel, qui peut choquer.
Ouais. Et toi, du coup, est-ce que par rapport à ce fameux twist de fin, t'as l'impression d'avoir un peu plus de pression que pour un comic classique, puisqu'au final, ça fonctionne par le financement participatif. Le premier épisode a été financé. Là, tu as fait une campagne pour le numéro 2. Plus que donner envie de lire la suite, il faut donner envie aux gens de venir à la prochaine campagne. Donc, il y a peut-être encore même plus de pression par rapport à ce cliff.
Ah bah là c'est sûr que je t'avoue que les périodes de campagne Ulule, c'est des périodes un peu stressantes,
Ouais.
parce que en plus bah, j'ai augmenté la cagnotte par rapport au numéro 1. Alors tout simplement en fait ça en fait moi je paye tout de ma poche au niveau des dessinateurs et du coloriste, hein, parce qu'ils travaillent pas gratuitement.
Logique.
Et donc ça c'est quelque chose que je pouvais pas faire éternellement. Donc j'ai investi sur le numéro 1, j'ai tout pris à ma charge. Donc du coup la campagne de financement participatif ne permettait de financer que l'impression, les frais postaux qui sont dingues et tous les petits à côté voilà. De le deuxième tome, je voulais que progressivement en fait au fur et à mesure ça prenne la rémunération des artistes. Donc voilà, j'ai pas mis tout d'un coup, mais voilà progressivement j'augmente un peu le palier en essayant de bah, que normalement de numéro en numéro j'arrive à récupérer un public et donc au fur et à mesure normalement c'est censé pouvoir être atteignable comme objectif. Donc on va voir. Mais bon effectivement après chaque numéro, si la qualité n'est pas au rendez-vous, bah je peux perdre des personnes qui ne viendront pas sur la campagne Ulule suivante. Donc c'est sûr qu'il y a une pression au niveau de la qualité du produit et de l'histoire et de tout ça.
Cette première campagne, c'était cet été, c'était mois de juillet, je crois. Elle s'était terminée à 110%, donc succès, financement, tout ça, pas de souci. T'as eu des retours depuis, de lecteurs?
Oui, tout à fait. Alors j'ai eu par message, mais je suis allé à la Paris Comic Con où j'en ai vu aussi qui sont des lecteurs qui sont venus me rencontrer. Et franchement, je n'ai eu que des retours positifs, donc ça fait super plaisir. Aussi bien au niveau du graphisme, donc pour la dessinatrice, qu'au niveau du scénario, avec ce fameux twist par exemple. Donc voilà, la seule chose vraiment, la remarque qu'on m'a faite, c'est que tout le monde ne connaissait pas forcément le format mensuel américain. Et donc on m'a fait des remarques comme quoi c'était court, 20 pages. Voilà, donc ça je comprends tout à fait, parce que voilà, quand on lit pas de VO, effectivement, on n'a pas l'habitude de ce format-là,
Ah, clairement.
et que 20 pages, ça peut passer vite, ouais.
Tu te lances du coup dans la deuxième campagne, ça fait une dizaine de jours qu'elle est en route, on est, j'ai envie de dire, presque déjà à 45%, donc pas loin de la moitié de l'objectif déjà d'atteint, il reste 19 jours. A priori, ce numéro 2, ça devrait bien se passer.
Bah oui, hein, j'espère. On a déjà bah, juste un bon indice aussi que les gens ont apprécié le numéro 1, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent pour le 2. Donc ça fait plaisir, mais on a aussi des nouveaux lecteurs. Et donc là, effectivement, la première semaine a été très progressive, chaque jour, ça a bien monté. Et donc on est quasiment à 50%. Et là, on arrive un peu dans le creux de la vague en ce moment, parce que dans les campagnes de financement participatif comme ça, il y a toujours le début, les gens qui attendent le début, et puis après, il y a les gens qui se décident pas ou les gens qui sont pas pressés, et puis qui vont tout déclencher dans les derniers jours. Et donc là, il y a aussi un gros boom les derniers jours. Mais au milieu, il y a toujours une période creuse. Et là, on l'a entamé depuis 48 heures à peu près, cette période-là. Et voilà, donc on essaye de mobiliser par différents moyens.
Tu parlais de ceux qui revenaient. Il y a aussi ceux qui ont raté, évidemment, la première campagne, comme moi. Et qui, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a sans doute. Vous pouvez vous procurer le numéro 1 via cette campagne. Il suffit de rajouter quelques euros à votre contribution et vous aurez, en plus des contreparties liées à ce numéro 2, la possibilité de récupérer aussi le numéro 1 et du coup de vous lancer dans l'aventure avec deux numéros. Donc ça, effectivement, c'est important de le dire parce que souvent, moi le premier, je vois la campagne, la nouvelle campagne, ah mince, c'est celle du numéro 2, j'ai raté le numéro 1, j'ai eu la curiosité d'aller voir. Bon bah tant mieux, sachez-le, ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous prendre aussi le numéro 1 avec, ça c'est important.
Tout à fait, ouais. Il suffit juste de rajouter 8 euros à sa partie. Donc, quand on clique dessus, peu importe le montant, disons 12 euros, et ben on l'augmente manuellement à 20. Et donc, nous, on comprendra naturellement que, en fait, vous avez mis plus que nécessaire. C'est parce que vous vouliez le numéro 1 avec.
Voilà, donc pas besoin de mettre des commentaires, etc. Juste cette hausse, cette augmentation, cet ajout de 8 euros à la contribution, et du coup ça couvre les frais pour le premier épisode, et vous recevrez du coup deux épisodes, a priori en avril.
Oui, tout à fait. Normalement mars, mais bon, par sécurité, on sait jamais. Mais si tout se passe bien, la dessinatrice, elle aura fini début février. Donc il n'y a pas de raison, après que le coloriste il bosse derrière, mais il n'y a pas de raison qu'en mars, normalement, on l'ait pas. Mais bon, voilà.
Ok.
Je préfère privilégier la sécurité dans ce genre de campagne que d'avoir des réclamations après en disant ah, comment ça se fait que j'ai pas reçu,
C'est
donc
mieux,
voilà.
surtout que les fans de comics français habitués d'Ulule ont eu quelques déconvenues avec certains projets comics dont on ne reparlera pas.
Bah là, pour le coup, nous, on a eu des bons retours hein, sur. Alors moi, qui achète beaucoup aussi par correspondance sur Internet, voilà, l'emballage, j'ai pris exactement les emballages parfaits pour mettre des comics dedans, etc. Je n'ai eu sur 94 colis pour la première campagne, il n'y a personne qui m'a dit j'ai reçu mon comics abîmé ou je l'ai pas reçu, etc. C'était en lettres suivies, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Et voilà, bon, c'est un petit surcoût hein, quand même, mais voilà, je préfère ça que d'avoir des réclamations derrière.
Oui, c'est sûr. Ok, et puis bah, quelques contreparties évidemment. Donc parmi les contreparties, il y a aussi des petits bonus hein, à débloquer, comme tout bon crowdfunding qui se respecte, avec évidemment des paliers. Donc il y a le palier voilà, à 110%, il y a quelque chose qui se débloque, à 130%, il y a d'autres choses, etc. Donc je vous laisse aller voir hein, sur Ulule. Je mettrai un petit lien sur l'article sur Comic Stories, donc vous pourrez découvrir un petit peu toutes les contreparties et les bonus qui sont débloquables. Il y en a priori quelques-uns qui devraient sauter, qui vont du coup venir agrémenter votre participation de manière plutôt sympathique. Qu'est-ce que j'avais encore à voir avec toi? La campagne est en cours, donc on va bien se passer, j'ai dit. Et après, du coup, on se lance sur numéro 3, 4, 5, 6. Au bout de 6 numéros, c'est terminé? Ou dans tes plans,
Bah
peut-être si tout va
non,
bien?
non, non, si on peut faire numéro 7, hein, mais
Ok.
non, plus sérieusement, il y a donc un arc narratif qui tient sur 6 numéros. Et effectivement, après, si ça marche, si on a notre public, on pourra évidemment continuer. Hein. Dans un univers comme ça de fantasy, la fantasy d'une manière générale, hein, quand c'est des romans, etc., c'est toujours. Beaucoup de tomes qui sont très épais, etc. Parce qu'il y a, c'est des histoires qui se déroulent sur des décennies ou sur au long cours. Et voilà, moi je suis parti dans cet esprit-là. J'ai énormément d'idées dans ma tête. J'en ai déjà écrites, même si je sais que c'est pas du tout prévu dans mes 6 premiers numéros. Mais dès que j'ai une idée sympa, je la note. Et donc non, non. Après, j'ai un Ça fourmille d'idées, donc j'ai un potentiel pour faire plein de choses. Mais bon, je me projette pas au-delà de 6 numéros. Déjà, je me projette à chaque numéro, j'essaye d'en faire un projet, un comics concret. Mon objectif là, ultime, c'est d'en faire 6. Et après, je me projette pas sur la suite. Mais voilà, potentiellement, effectivement, je peux écrire bien plus.
Oui, parce qu'après on a l'impression, hein, quand on lit cet épisode 1, qu'il y a quelques petites portes qui sont glissées ici ou là. Enfin, il y a pas mal de questions déjà dans ce numéro 1 qui sont posées. Qu'est-ce qui arrive au Shinobi notamment? Enfin voilà, pourquoi il se retrouve avec le dernier? Et d'autres questions, hein, je laisse les auditeurs contribuer et découvrir du coup ces deux numéros et les questions que ça peut susciter. Mais oui, on sent bien qu'il y en a potentiellement encore pour durer.
Oui, tout à fait, ouais. Non, ouais, il y a plein de choses à explorer, hein. Il y a différents peuples, donc on peut aller les détailler, on peut expliquer les grands moments histoire du monde d'Orme, donc ce que j'ai déjà pu citer, par exemple, hein, l'extermination des ninjas par les sorciers. Donc non, il y a plein de choses, il y a plein de choses possibles. Mais bon, voilà, déjà faisons une bonne histoire sur 6 numéros, qui ait une cohérence là-dessus, et puis après on verra plus après.
Ok, pour conclure, on va quitter le monde d'Orme, on va revenir à notre monde de 2019. On arrive en fin d'année là, nous on va tous attaquer petit à petit nos petits bilans, on va décerner nos awards le mois prochain par rapport à tout ce qu'on a aimé et pas aimé d'ailleurs, hein, en 2019. T'as un bilan toi de 2019 par rapport à tes lectures comics, ou alors aux adaptations qui sont sorties, des choses qui t'ont marqué et que tu voudrais partager un peu avec nos auditeurs?
Non, moi j'ai apprécié, alors en tant que fan de Something, là j'ai apprécié tous les bouquins qu'ils ont sortis là chez Urban, donc du coup Alan Moore et puis les origines du personnage avec Len Wein et Bernie Wrightson. Donc voilà, ça c'est des grands classiques. Surtout celui de Alan Moore a jamais été pour le moment imprimé en entier, hein. Le début, il y a eu des morceaux chez Panini, chez différents éditeurs, mais il n'y a jamais eu le run complet, donc j'espère que Urban va bien le faire ce coup-ci.
Bah, faut espérer surtout qu'il y a assez de gens qui sautent sur le numéro 1 pour que. Voilà, il y a eu quelques séries, hein, comme ça chez Urban qui se sont arrêtées faute de lectorat. Donc oui, il faut croiser les doigts pour que le public soit là et qu'on puisse avoir enfin la fin pour ceux qui aiment
Ouais, tout
l'histoire,
à
mais bon.
fait. J'ai l'impression que ça avait eu un bon accueil quand même.
J'ai eu ce sentiment aussi, mais après, les chiffres sont un peu opaques en France, donc on peut pas trop savoir.
Ouais. Non, en fantasy, en comics, là, moi je lis Seven to Eternity.
Ouais.
Donc ça, c'est du Urban Indies. Et c'est très très bien écrit. Bon, il y a Rick Remender, hein, dedans, forcément.
Avec
Ils ont
Jérôme
sorti ça
Peña,
en
c'est ça,
plus.
hein?
Oui, tout à fait, ouais. Qui est super aussi au dessin. Voilà, en plus ils ont sorti une édition en black and white. Donc ça j'apprécie beaucoup. Et puis après, sinon moi en déception, il y a eu le dernier Avengers.
Ouais.
Autant j'avais adoré Infinity War, qui je trouvais était extrêmement bien rythmé, nous amener dans des endroits où vraiment totalement inattendus, avec un travail d'équipe et des duos dans les combats, etc., qui était extrêmement bien mené. Et puis bon, une fin aussi qui finit, voilà, qui nous laisse totalement en suspens. Et puis j'ai retrouvé que ça retombait totalement dans tous ces travers Disney avec le Endgame. Et voilà, donc ça, je...
Fais partie des déçus de ce film-là, toi.
Ouais, tout à fait, ouais. Pour ma part, trop de fanservice. Pour moi, le fanservice, ça fait pas un film. Et voilà, donc j'étais déçu. Ouais.
Ok. Très bien. Eh bien, il me reste plus qu'à te remercier d'être venu nous rejoindre pour cet entretien, cette discussion. C'était ma foi bien sympathique. Je vais inviter nos auditeurs à aller cliquer sur le petit lien qui est sur comicstories.fr et dans la description de cet épisode pour Ulule. Sinon, vous allez directement sur Ulule, vous cherchez The Last Shinobi, la campagne pour le numéro 2 est en cours. Il vous reste 18, enfin 19 jours aujourd'hui, donc elle s'arrêtera le 28 décembre au soir. Donc ça vous laisse un petit peu de temps, mais allez jeter un oeil et puis n'hésitez pas à vous lancer. Je vous mettrai ma chronique du numéro 1 qui est bon et qui donne bien envie de voir la suite. Donc, allez-y.
Bah, merci à vous pour votre accueil, pour votre temps, et puis je suis content que tu aies apprécié le numéro 1, et voilà, on va continuer comme ça.
Alors rendez-vous pour la suite pour numéro 3, 4, 5, 6 et puis bonne chance. Voilà, on espère que ce projet pourra aller au bout et pourquoi pas donner un bel univers sympathique. Voilà. On demande que ça, d'avoir des nouvelles références comme ça de chez nous aussi.
Oui, il n'y en a pas des masses, hein, des comics français,
Non.
Voilà, c'est vrai que voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, voilà, avec nous. Hein, c'est finalement la participation de tout le monde qui permet de mettre de faire de ce projet une réalité. Donc voilà, même si votre contribution est minime, ça fait toujours plaisir et ça aide à réaliser ce beau projet où on essaye d'impliquer en plus des professionnels, de rendre le travail le produit le plus professionnel possible. Donc voilà.
Ouais, et puis vous pouvez avoir au passage des variantes cover qui sont pas dégueulasses non plus. Enfin, on va pas se mentir, elles sont plutôt chouettes ces covers. Voilà, à chaque fois il y a la
Ouais.
cover principale d'Aquila et puis une autre par un nom professionnel d'industrie des comics. Donc là c'est Sergio Davila pour le numéro 2. Et ma foi, elle déboîte pas mal aussi.
Ouais, habitué des univers d'Heroic Fantasy, puisqu'il a travaillé sur Conan chez Dark Horse. Donc du coup, il était nickel pour représenter des géants, des cyclopes, etc.
Ah non, elle est super classe cette cover, y a pas à dire. Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes. Vous avez écouté aujourd'hui le 292e épisode. Le 291 n'est pas sorti, c'est normal, il arrive. Il arrivera dans quelques jours, il arrivera juste le week-end avant Noël. Et on va vous parler avec toute l'équipe cette fois-ci. Hein. Anthony, Erwan, Clément et Boris sont avec moi. On vous parlera des adaptations et de qu'est-ce qui fait une bonne adaptation. Quand on va voir une adaptation, quelles sont nos attentes? Est-ce qu'on n'est pas un public aussi un peu trop difficile à satisfaire en France, parce que finalement on n'est jamais content, enfin en France ou même dans la communauté comics. Donc ça sera notre discussion du mois de décembre. Voilà, qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Et on se retrouve donc juste avant Noël pour cela. Et puis bon, en janvier, évidemment, le bilan de 2019 avec nos awards et quelques chroniques VO et VF. Merci Richard.
Merci.
Bonne lecture à tous et à bientôt.
Au revoir.